Philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 11 mars 1993.
de très extraordinaire est de voir que du côté de Jephté, du général, il n'y a aucun doute, il doit le faire. Et alors on voit elle qui est dans la détresse de devoir mourir avant d'être mère. Et c'est très fort pour comprendre justement d'un point de vue religieux, une éthique religieuse, ce que peut représenter la mort pour quelqu'un qui est fait pour la vie et qui est fait pour être mère, source de vie. Et c'est ça qui l'a fait pleurer. Je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous à voir. Point de vue. Comprendre combien la procréation est liée à la maternité. Et sont des pleurs d'une mère ou de quelqu'un qui aurait pu être mère et qui doit accepter un sort qu'elle n'a pas voulu, qui s'impose à elle de l'extérieur. On peut volontairement offrir à Dieu sa capacité d'être mère ou d'être père. Alors, on le fait dans un motif religieux ou dans un motif chrétien. Ceci pour témoigner que le lien avec Dieu est plus fort que toutes les exigences de l'espèce. Et que le lien avec Dieu finalise d'une manière encore plus immédiate l'espèce humaine que par la procréation. Toujours la même loi, un amour supérieur peut relativiser un amour inférieur. Et seul l'amour relativise l'amour. L'amour à l'égard de Dieu, offrir sa vie en holocauste d'amour, librement, peut donner un motif légitime pour finaliser sa vie. Et à ce moment-là, son lien avec Dieu justifie qu'on n'ait pas d'enfant. Mais on touche très profondément le lien entre l'individu personnel et la responsabilité que chacun d'entre nous a à l'égard de l'espèce humaine. En tant que membre de l'espèce humaine, on est débiteur de l'espèce humaine, mais en tant que relié directement à Dieu, et de pouvoir être lié directement à Dieu, on est au-delà de ce service. C'est un service éminent de pouvoir se consacrer à Dieu. Et ce service éminent de pouvoir se consacrer à Dieu justifie tous les autres. Là, c'est un problème, j'allais dire, plus éthique qu'un problème de philosophie de la vie. Mais il est intéressant de noter fortement au plan philosophie de la vie combien le point de vue de la procréation finalise le point de vue de la vie végétative. C'est beaucoup plus fort que ce que dit Freud, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les arguments philosophiques pour réfuter ce que dit Freud. Freud se place, lui, d'un point de vue de l'instinct. refoulements qui peuvent exister de ce côté-là. Et il voit que radicalement, il y a le complexe d'Œdipe. Il faudrait, dans une perspective de philosophie du vivant, voir l'erreur de cette position, indépendamment de l'éthique. Et voir que cette position ne tient pas. Alors pourquoi ? C'est important. Il faut se libérer, n'est-ce pas, du joug freudien. Et radicalement, il faut se libérer du joug de toutes les idéologies athées. Et pour chacune de ces idéologies athées, il y a une libération philosophique. En voyant la confusion philosophique qui est faite. Et une fois qu'on comprend la confusion philosophique qui est faite, alors on se libère. Autrement, ça reste toujours un peu. On subit des conséquences. Il y a des quantités de chrétiens qui restent freudiens. Ça, c'est sûr. Il y a même des religieux qui restent freudiens. Il y avait un bon père jésuite qui n'hésitait pas de dire que il y avait Freud et Saint-Ignace. Elle n'hésitait pas à le dire, je le connais, donc je peux dire qu'il le disait, ça. Il y avait Freud et Saint-Ignace, il considérait que Freud était un génie. Est-ce qu'il est possible que Freud soit un génie ? Point de vue médical, n'est pas au plan philosophique. Que Freud ait fait des choses assez étonnantes au point de vue médical, je suis tout à fait d'accord. Mais au plan philosophique, vous voyez, c'est de vouloir comprendre l'homme à partir de la maladie. Or, comprendre l'homme à partir de la maladie, c'est impossible. Parce que c'est à partir d'une privation qu'on comprend l'homme. Tout le point de vue des complexes ne va pas faire comprendre ce que c'est que l'homme. Même si, de fait, l'homme est terriblement noué par toute une série de complexes, c'est très vrai. Mais c'est pas ça qui va faire comprendre l'homme, c'est toujours la finalité. Alors, il y a, il me semble, une très grave erreur dans Freud. C'est de comprendre que il y a un instinct de conservation dans l'homme. Un appétit naturel pour la nourriture qui relève de l'individu comme tel. Et puis il y a un appétit à l'égard de la conservation de l'espèce qui est l'appétit au niveau sexuel et qui ne s'enracine pas seulement dans l'individu, qui s'enracine dans le représentant de l'individu, dans le représentant de l'espèce, dans chaque individu. Mais c'est une distinction que fait Aristote qui me semble très importante. Alors, il faut voir si cette distinction est légitime ou pas. Si, avec Freud, cette distinction peut encore exister. Ou si, au contraire, Freud a eu le mérite de montrer que cette distinction d'Aristote n'a pas de sens. Pour moi, tout problème est là. Vous voyez ? C'est quelque chose d'analogue, comprenez bien ce que je veux dire, entre... Ceci, ça vaut la peine de le regarder et de l'étudier. Parce que c'est comme toujours, quand il s'agit de certaines distinctions qu'on télescope, on fait des confusions. corps sont subjectifs. Les sensibles communs, objectifs et mesurables. Donc sont les seuls qu'on doit garder. C'est vouloir ramener toute l'objectivité à ce qui est mesurable. C'est là l'erreur. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas mesurable et qui est objectif. Et même le non mesurable, c'est l'aspect qualitatif. L'aspect mesurable, c'est l'aspect quantitatif. L'aspect mesurable, quantitatif, est moindre que l'aspect qualitatif. L'aspect qualitatif est beaucoup plus principe propre de spécification. Qu'est-ce qui détermine les sens ? C'est l'aspect qualitatif. Les sensations et sont déterminées par les sensibles propres. Il y a quelque chose d'analogue, vous voyez, je dis d'analogue, c'est très différent, mais c'est intéressant à mettre le parallèle entre les deux, entre ce que représente pour Aristote l'appétit naturel de l'individu à l'égard de l'aliment. Il y a un appétit naturel de l'individu à l'égard de la nourriture. Il a faim et soif. Et puis l'appétit naturel de l'individu au nom de l'espèce.
Ce serait intéressant du reste.
Voir Aristote, Descartes. très simple voir. Ce serait facile. C'est facile à constater ça. Pour Freud. Alors je prends non plus. On prend Freud. Freud ne regarde plus l'appétit. Il regarde l'instinct. Alors la première chose à faire, ce serait de voir la différence entre l'appétit naturel et l'instinct. Et c'est très intéressant de voir à quel moment on a changé l'appétit naturel en instinct. Vous voyez ? J'ai demandé ça à des psychologues, parce que c'est aux psychologues, les psychologues parlent tout le temps de l'instinct. L'instinct sexuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Moment, et j'ai cherché, vous historiquement, c'est intéressant, où il y a eu le passage de l'appétit naturel à l'instinct. L'instinct est l'instinct du boire et du manger, et l'instinct sexuel.
Reprend régulièrement ce point de vue-là. Il y a
quelque chose de juste dans cet appétit de l'individu qui représente l'espèce et qui n'a pas le droit de s'en libérer. L'individu comme tel n'a pas le droit de se libérer selon son bon plaisir de ce devoir de la procréation. C'est un devoir. Parce que je suis responsable de l'espèce. Dans cette perspective de l'appétit, je vois beaucoup plus le point de vue de la nature. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus l'individu et la personne. D'où ce n'est plus le point de vue strict de la nature et de la finalité de la nature qu'on voit, mais c'est le bien de l'individu. Et qui dit instinct dit beaucoup plus le lien individuel vis-à-vis d'un bien sensible. L'instinct est ordonné à un bien sensible, le bien sensible de l'aliment, de la boisson, le bien sensible de l'union sexuelle. Donc on regardera beaucoup plus le bien, et comme c'est un bien sensible, la jouissance. L'instinct est déterminé par ce bien sensible, et comme on ne voit plus le caractère de l'analyse objective, on regardera plus que l'exercice subjectif. Et on parlera de jouissance. Mais comment on arrive progressivement à quitter le regard objectif pour ne plus voir que l'aspect subjectif, la jouissance. La jouissance de la nourriture. Quand on a faim et soif, le carême est un temps merveilleux pour nous préparer aux jouissances pascales. On serre sa ceinture et donc on sera d'autant plus sensible au chocolat de Pâques. Et on vit en raison de cette sévérité pour le chocolat de Pâques. Vous voyez bien, c'est le point de vue subjectif. Le point de vue sexuel, on verra également que l'attraction sexuelle est beaucoup plus forte, beaucoup plus fondamentale que l'attraction à l'égard du bien que manger. L'instinct sexuel est beaucoup plus fort. Alors, comme cet instinct sexuel est beaucoup plus fort, mais si, de fait, on le refoule, ça fait des refoulements beaucoup plus terribles. Si on met des obstacles, ça fait des refoulements beaucoup plus terribles. Et alors, on en sera pour la libération des instincts. Et on est en plein dedans, hein. La libération des instincts. Vous voyez comment, et c'est pour ça que je dis, c'est intéressant de regarder historiquement. Il y aurait une étude très intéressante à faire de l'appétit naturel à l'instinct, qui est la vision subjective, et de l'instinct comprendre ce point de vue de la jouissance. Ce n'est plus l'aspect objectif qui spécifie qu'on regarde, mais l'exercice subjectif qui conduit à la jouissance. Et alors, dans cet exercice subjectif, on verra qu'il peut y avoir un fruit, l'enfant. L'instinct sexuel est lié à la fécondité. Et la fécondité, donc, c'est le fruit, l'enfant, qui est vu en second lieu. La première chose essentielle, c'est la jouissance, l'épanouissement de l'individu. Et le point de vue de la fécondité et de l'enfant est vu en second. Et vu en second, et par le fait même, est relativisé. Et parce qu'il est relativisé, on peut regarder les moyens qu'on peut éviter. comment peut-on les vider ? Pour pouvoir se donner plus pleinement à la jouissance. Mais on est en face d'une morale eudoniste de joie, de plaisir, de jouissance. Et c'est pour ça que c'est très difficile quand vous placez du côté de Freud de répondre à Freud. Pratiquement, il n'y a pas de réponse. Mais il faut montrer que dès le point de départ, on ramène un appétit naturel à un instinct qui ne regarde qu'un seul aspect de cet appétit naturel. Cet appétit naturel a une autre fonction, bien plus radicale. Elle est ordonnée à la fécondité. Et alors, ce qui me semble important à souligner, c'est justement que l'instinct, au niveau de la nourriture et au niveau de la procréation, sont quand même deux instincts différents. Même s'il y a des liens souterrains entre les deux, c'est quand même deux instincts différents. Et que l'instinct ne regarde que l'exercice sans regarder la spécification. Le caractère propre, la spécification, le caractère propre de l'appétit naturel. Ceci me semble très important à souligner pour pouvoir reprendre le problème à l'origine. Vous comprenez que ce sera exactement le même problème pour toutes les questions autour de la fécondité et de l'éthique autour de la fécondité. Tout dépend de ce que vous regardez comme finalité. Et même pour la fécondation artificielle. C'est pour ça qu'on touche un problème qui, aujourd'hui, est un des problèmes extrêmement importants au niveau éthique et éthique de la famille. Alors, ici, je le traite au plan philosophique. Philosophie du vivant, c'est pas l'éthique. Bien comprendre, mais l'éthique repose sur une philosophie du vivant. L'éthique ne peut pas se fonder sur le point de vue de la biologie. L'éthique se fonde sur la philosophie du vivant. Pourquoi ? Parce que la philosophie du vivant est la seule qui montre la finalité. Et c'est la finalité qui peut seule donner le sens à l'éthique. Donc on est au carrefour, vous voyez ici. On voit que une éthique de la nourriture avec la vertu de tempérance, une éthique de l'appétit naturel de l'individu vers la procréation est une éthique. Une éthique qui repose donc et qui nous fait découvrir le point de vue de la finalité propre de cette opération. Tandis qu'au contraire, une éthique de l'instinct ne regardera plus la finalité propre, mais regardera avant tout le point de vue de l'épanouissement du sujet. Le point de vue du plaisir. Puisque l'épanouissement sensible, c'est le plaisir. Alors, la vertu de chasteté s'enracine dans une éthique de l'appétit naturel en vue de la procréation. Tandis que dans une éthique de l'instinct et du développement de l'instinct, où peut se situer la vertu de chasteté, Je vois pas très bien. Elle se situe du côté uniquement de la prudence. Soyez prudent. C'est comme il faut pas trop manger. Il faut pas trop de non plus de plaisir sexuel. Parce que ça userait l'individu. Donc c'est une question de prudence. Et ce n'est plus la domination à l'égard de son corps pour permettre à toute la vie végétative d'être au service d'une vie animale, sensible et surtout d'une vie spirituelle. Et là, on touche le fondement de l'éthique en revenant à la philosophie du vivant. Et je ne crois pas qu'on puisse trouver un autre fondement de l'éthique que cette philosophie du vivant. Quand je prends l'amour d'amitié, cet amour d'amitié, en définitive, implique la philosophie du vivant. Mais la philosophie du vivant n'est pas immédiatement l'expérience de l'éthique. Il y a une expérience propre. Mais cette expérience propre présuppose un fondement philosophique qui est la philosophie de l'éthique. Philosophie anthropologique. Et alors, il faut à l'égard de tout ça bien comprendre toutes les questions qui peuvent se poser. Si vous en avez, vous les poserez. Pour qu'on puisse bien comprendre comment, au plan philosophique, la procréation finalise la vie végétative. Je comprends donc que ma vie végétative, lorsqu'elle est coupée de cette finalité, il faut qu'une autre finalité soit suffisamment puissante pour ne pas être source de terribles refoulements. Ça, il faut le voir, et c'est très important. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que la vie végétative est finalisée par la procréation. Alors, arrêter cette finalité ne peut se faire que s'il y a une autre finalité plus puissante, plus forte, et maintenue toujours dans sa force. Et si cette finalité n'existe pas, ce sera source de terribles refoulements. Je peux très bien, pour des raisons humaines, dire j'ai une vie artistique, quoi. Étant donné que j'ai une vie artistique, je ne vais pas me marier. Est-ce que le but d'une vie artistique est suffisant pour assumer cette amputation très forte? Et donc, par là, si la vie artistique ne peut pas assumer, elle sera source de refoulement, tôt ou tard, donc de terribles complications. Parce que le refoulement, c'est ça, c'est les terribles complications. C'est évident qu'il y a un refoulement, mais il faut bien le situer là où il doit être. Donc, vous voyez, il y a là quelque chose de très important à souligner, c'est que c'est vrai que la procréation, que l'union de l'homme et de la femme est source normale de fécondité. Et que ce lien peut être acclamer ce dépassement. Et si ce dépassement n'est pas vécu, alors c'est le refoulement. Pourquoi la procréation finalise-t-elle la vie végétative? Parce que le fruit de la procréation est un être humain nouveau. Donc, il y a une fin substantielle. Et c'est cette fin substantielle qui donne la stabilité à toute la vie végétative. La vie végétative est stabilisée par la procréation. Sans la procréation, la vie végétative n'a pas de stabilité. Elle n'aura de stabilité que grâce à une nouvelle finalité qui assumera ma vie végétative. Mais ma vie végétative ne sera jamais parfaite. Alors, vous ne pouvez pas s'inquiéter. Tous les psychologues qui ne regardent que le point de vue du développement de la vie végétative diront forcément c'est imparfait. Celui qui se donne au Seigneur et qui veut une vie de célibataire, il le sait. Et ça ne le dérange pas. Parce qu'il n'a pas mis sa finalité dans la vie végétative. Mais ça dérange le psychologue. Parce que lui, il regarde le point de vue de la vie végétative dans son épanouissement le plus parfait.